Alors, je vous propose d'ouvrir nos Bibles, voilà, au premier chapitre des Actes des Apôtres, où sera notre texte que nous suivrons ce matin. Et je lirai donc à partir du verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et il en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Voilà, jusque-là notre lecture. Alors, il y a quelques jours de ça, nous avons fêté la fête de l'Ascension. Pour beaucoup, la fête de l'Ascension, c'est synonyme d'un jour férié, c'est synonyme d'un pont avec des jours à prendre et pour se réjouir et prendre du bon temps. Et la fête de l'Ascension, fête chrétienne, elle passe souvent à la trappe. Et même dans nos églises, nous en parlons peu. Quand nous allons faire des recherches sur Internet, qui est une mine de renseignements, par exemple, pour savoir ce que c'est la fête de l'Ascension, nous trouvons très peu de choses. Alors, ce matin, j'ai trouvé que c'était intéressant de se repencher sur cette question de la fête de l'Ascension et sur ce que ce texte pouvait nous apprendre à ce sujet. Le mot ascension vient du latin et il signifie monter, élever. Pour les Juifs, monter aux cieux, c'était rentrer dans la gloire de Dieu. Et la nuée, qui recouvre ici Jésus, est le symbole de la présence divine qui accueille le Christ, qui va s'asseoir à la droite du Père au-dessus de toute domination et de toute autorité, dans le ciel. Et cela est une préfiguration de ce qui va nous arriver à nous aussi un jour. Nous aussi un jour, nous irons rejoindre le Père pour l'éternité dans la demeure qu'il a préparée pour nous d'avance. Voici l'essentiel de ce qu'est l'ascension si l'on fait une petite recherche théologique. Néanmoins, l'ascension fait partie aussi intégrante de la plupart des déclarations de foi des principales confessions chrétiennes et c'est aussi normal parce que elle marque un tournant capital dans le plan de salut pour l'humanité qu'a Dieu. Après la résurrection de Jésus, deux choix s'offraient à Dieu. La première solution, c'était que Jésus reste sur terre et qu'il continue d'une manière renouvelée le ministère qu'il avait eu avant de mourir sur la croix. La deuxième, c'était qu'il parte au ciel, comme le rapporte ce passage. Et ça change tout. Ça change tout parce que pour Jésus, en fait, le moment est venu de s'effacer et de laisser les hommes œuvrer parmi les hommes dans la continuité du plan de salut qu'a Dieu pour l'humanité. Ainsi, avec ce passage et avec les autres passages bibliques aussi qui rapportent cet événement, ce n'est pas tant la glorification du Christ qui est à souligner que la nouvelle orientation du plan de salut de Dieu pour l'homme. Ce texte nous interpelle dans notre rôle que nous avons à jouer dans le plan de salut de Dieu. Et en étudiant ce passage, nous allons voir À quoi Dieu appelle l'homme ? À quoi il nous appelle désormais ? Et pour commencer, nous pouvons lire que, avant d'être enlevé au ciel, Jésus donna ses ordres aux apôtres qu'il avait choisis. Dit autrement, Jésus a donné ses instructions à ses envoyés. C'est ce que signifie apôtre. Le fait d'être qualifié d'envoyé, renseigne sur le type de mission à laquelle ces hommes vont désormais être appelés. Il s'agit pour eux non pas de s'installer durablement à Jérusalem parmi les hommes de leur temps et de leur culture, il ne s'agit pas non plus pour eux de retourner vers ce qui faisait leur vie d'avant, comme pêcher par exemple pour Pierre ou les frères de Zébédée, non, il s'agissait pour eux d'une autre genre de mission. Non, ils sont envoyés, d'abord à Jérusalem, puis partout dans le monde progressivement. Ils sont appelés à aller, pas seulement à la rencontre de ceux qui leur ressemblent, les Juifs, mais aussi à aller à la rencontre de tous ceux qui sont différents, les Samaritains, les Grecs, et puis toutes les nations du monde d'alors accessibles. Ils ne sont pas envoyés pour organiser ou pour préparer le rétablissement d'Israël dont il est question dans ce passage. Non, cet objectif-là est dépassé. Il est obsolète. À l'échelle mondiale et de l'humanité entière, le but de cet homme devient beaucoup plus grand. Il s'agit d'élargir à l'infini les espaces du territoire d'Israël. Dieu ne désire plus seulement être connu essentiellement des Juifs et un peu des autres nations. Non, désormais, il désire être connu de tous les hommes. Et si nous choisissons de nous identifier aux apôtres dans ce passage, et si nous recevons les mêmes paroles qu'eux de la part de notre Seigneur, nous ne devons jamais oublier que nous sommes des envoyés, ambassadeurs du Christ, mais pas uniquement envers les personnes que nous estimons mériter l'annonce de l'Évangile. Non, nous sommes des envoyés auprès de tous les hommes, sans aucune distinction, serait-ce notre ennemi éventuellement. Et si cela paraît évident et normal sur le papier, cela l'est parfois beaucoup moins dans la pratique. Des apôtres sont donc des envoyés de la part de Jésus pour aller partout dans ce monde. Mais pourquoi sont-ils envoyés ? Selon notre texte, ils sont appelés à être des témoins du Christ. « Vous serez mes témoins », dit Jésus. Le témoin raconte ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu quand quelque chose se passe, un accident par exemple. Le témoin du Christ est ainsi avant tout quelqu'un qui a fait une rencontre authentique avec le Christ, qui a engendré une relation profonde et durable. C'est quelqu'un qui a entendu le Christ lui parler à son cœur et qui a vu le Christ agir dans sa vie. Comme vous le savez, Richard Anthony, le célèbre chanteur des années 70-80, est décédé le 20 avril dernier, à Pégoma. De nombreux médias ont profité de l'occasion pour lui rendre hommage en quelque sorte et retracer l'histoire de sa vie. Moi aussi, je pourrais vous parler de Richard Anthony. Mais je ne suis pas un témoin de Richard Anthony, je ne l'ai jamais rencontré face à face, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais entendu, du moins face à face. Par contre, je peux faire des recherches, je peux retrouver des éléments et vous raconter sa vie. Oui, certes, ça je peux le faire. Mais si des médias venaient pour m'interroger en tant que témoin de sa vie, ils ne devraient pas parce que je ne l'ai pas connu, entendu réellement, en tant que tel, en chair et en os. Les apôtres, eux, ils avaient connu Jésus de très près. Pendant 3 ans, ils l'avaient suivi partout. Ils avaient mangé avec lui, ils avaient dormi avec lui, ils l'avaient entendu parler et livrer des secrets sur le royaume des cieux, des fois qu'à eux seuls. Et ils l'avaient vu faire aussi des choses merveilleuses, des fois juste rien que devant eux aussi. Si on voulait savoir qui était Jésus à cette époque-là, il fallait s'adresser aux apôtres. C'était des témoins fiables, des témoins fidèles de Jésus. Or, Si nos contemporains aujourd'hui veulent savoir qui est Jésus, vers qui vont-ils se tourner? Vont-ils se tourner vers des livres? Vont-ils se tourner vers les médias? Vont-ils se tourner vers des sites internet au risque de trouver tout et n'importe quoi? Ou bien se tourneront-ils vers nous parce que nous sommes des envoyés, témoins du Christ dans notre vie? Au passage, il faut noter que les apôtres n'étaient pas seulement appelés à expliquer le plan de salut qui s'était accompli par la mort et la résurrection du Christ. Ils n'étaient pas des théologiens, ils étaient des envoyés. Certains, certes, par la suite, ont eu plus de facilité théologique pour expliquer le plan de salut. Mais ça n'était pas une tâche qui était dévolue à chacun. Non, la tâche qui leur était confiée, c'était une tâche qui n'était pas au-dessus de leur force, réservée juste à une élite capable d'expliquer avec des arguments théologiques le salut par la grâce et par la foi. C'est une mission que nous pouvons tous remplir, à condition justement d'être un véritable témoin de Jésus, comme nous venons de l'énoncer. Et pour être des témoins crédibles, eh bien, il nous faut encore ne pas être comme ces fermiers. Quelques fermiers, un jour, se rendirent au marché de leur ville à côté, et pour cela, ils empruntèrent le train. Ils étaient dans une discussion très animée au sujet des prix qu'ils allaient pratiquer au marché et bien d'autres choses encore, à tel point qu'ils rentrèrent dans le wagon et la discussion continua très enflammée. Puis, au bout d'un moment, l'un d'entre eux s'exclama « Mais pourquoi est-ce que le train n'avance pas ?» Alors les fermiers se précipitèrent vers la vitre et là, ils durent se rendre à l'évidence. Le train et les autres wagons étaient déjà partis. En fait, eux, ils étaient montés dans le dernier wagon, mais ils n'étaient pas accrochés au reste du train et ils étaient restés plantés là, incapables de pouvoir se rendre au marché où ils devaient vendre leurs biens. N'en est-il pas de même pour ceux qui, tout en se prétendant chrétiens, n'ont aucune relation vivante et personnelle avec Jésus? Vu de l'extérieur, ces personnes peuvent se sembler être sur la bonne voie. Elles vont peut-être entendre les mêmes prédications, chanter les mêmes chants, bénéficier de la même réputation que les vrais chrétiens nés de nouveau. Que leur manque-t-il alors? Ce qui leur fait défaut, c'est précisément une foi réelle et vivante avec celui qui voudrait être leur sauveur et leur Seigneur. Or, en tant que témoins du Christ, il nous faut montrer que nous connaissons bel et bien le Christ, que nous l'avons vu et que nous l'avons entendu, que nous avons des choses à raconter. Il ne s'agit pas simplement de débiter des versets bibliques, de collecter des arguments théologiques soigneusement élaborés, de répéter des enseignements entendus peut-être des fois depuis notre enfance. Non, il nous faut avoir rencontré le Christ, cœur à cœur. Avec cette rencontre, je réalise mon besoin d'être sauvé de la mort éternelle qui s'offrait à moi à cause du péché, de ce mal qui me rongeait intérieurement. Et je réalise aussi combien Dieu m'aime. Et plus encore, il ne s'agit pas seulement de parler d'une seule rencontre. Il s'agit de pouvoir parler, témoigner de ce que Dieu fait jour après jour dans ma vie, de cette relation qu'il désire avoir avec moi et qu'il tisse avec moi au fil du temps. La présence réelle et vivante du Christ dans nos vies peut sembler abstraite à nos contemporains. Beaucoup en font un personnage historique ou un espèce de grand sage. Et le fait de ne pas l'entendre et de ne pas le voir en chair et en os aujourd'hui n'aide pas nos cinq sens à croire qu'il est bien vivant. Pourtant, il l'est. Et c'est notre témoignage qui doit aider ceux qui nous entourent à le croire aussi. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent « Est-ce en ce temps, Seigneur, que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Les apôtres sont donc des envoyés. Pourtant, ils ne mesurent pas encore pleinement leurs futures et nouvelles tâches. L'asservissement d'Israël au diktat romain était un lourd fardeau, une blessure profonde, un honneur bafoué. Pour ces Juifs qui aimaient leur pays, c'était très dur. Malgré la croix, la résurrection, l'enseignement sur le salut et sur le royaume des cieux, les envoyés sont donc encore focalisés sur la rédemption d'Israël. Ils attendent encore cette libération de la part du Christ, comme si tout ce qui venait de se passer n'avait aucun impact sur leur vision de qui était Jésus et du sens de sa mission. Or, la réponse du Maître les appelle à changer de regard. C'est le Père qui fixe le temps et les moments où Israël sera rétabli. Quant à eux, les envoyés, ils ne doivent pas se préoccuper du sort politique du pays où sont ceux qui restent, mais ils doivent se tourner vers ceux qui sont au loin, l'étranger, le différent, le lointain. Ce rétablissement d'Israël, ils l'attendent du Christ lui-même. Quand est-ce que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Mais ce ne sont pas les préoccupations de Jésus. Ne ressemblons-nous pas aux apôtres ? Il peut nous arriver d'avoir des attentes, nous aussi, vis-à-vis du Seigneur. Nous pouvons lui demander d'agir dans telle ou telle façon, par exemple. Nous pouvons aussi lui demander, quand il va agir dans tel ou tel domaine, dans le cadre, par exemple, de la mission, quand est-ce qu'il va envoyer des missionnaires dans tel pays ? Il peut nous arriver de prier, seul ou en communauté, pour tel sujet, afin que Dieu agisse. Et nous sommes parfois surpris que Dieu n'agisse pas en apparence. Mais parfois nos yeux sont obscurcis. Pour une raison quelconque, nous ne nous sentons pas directement impliqués par ce sujet de prière que nous revendiquons. Mais parfois, c'est aussi en nous levant nous-mêmes pour faire face à ce besoin évoqué dans ce sujet de prière que justement Jésus va agir, mais à travers nous. Ainsi, devenons des témoins du Christ responsables et non des envoyés passifs qui pensent que Dieu va tout faire lui-même. Mais si le chrétien est un témoin du Christ responsable, il lui faut encore avoir du discernement pour savoir quand se lever et savoir quand partir comme envoyé. Jésus envoie les apôtres, mais ils ne doivent pas partir tout de suite. Ils doivent attendre la venue du Saint-Esprit. Mais, dit Jésus, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous. Si nous partons comme témoins sans le Saint-Esprit, eh bien notre témoignage restera humain et il n'aura pas le même impact que lorsqu'il est animé et conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une véritable puissance, puissance divine, qui nous donne les mots à prononcer lorsque nous témoignons et que nous avons à défendre notre foi. C'est lui qui nous guide et qui nous dirige dans nos actes et dans nos paroles. Avant de servir le Seigneur, même pour une tâche toute simple, il nous faut ainsi nous remettre inlassablement aux pieds du Seigneur, à son école, à son écoute, afin d'abord d'être formé pour la mission qu'il nous a préparée et ensuite être équipé du Saint-Esprit. Mais malheureusement encore, trop de croyants partent en mission, sans discernement, sans s'attendre au Saint-Esprit, en comptant sur leur propre force. Ils se battent alors avec leur propre force humaine pour faire réussir leur mission, et quand elle ne rencontre pas de succès, eh bien ils s'en étonnent. Quand le résultat escompté tarde, ils se découragent. Quelqu'un a raconté une belle histoire un jour sur l'annon que Jésus a mené en entrant à Jérusalem. Cet annon était si heureux d'avoir été choisi pour que Jésus le monte, qu'il a levé bien haut sa tête quand ils ont été sur le chemin pour aller à la ville. Il se délectait des chants de louanges et il se régalait de marcher sur les branches sous ses sabots de palmier. Il savourait toute cette attention qui leur était apportée. Une semaine plus tard, l'annon voulut jouir encore de tout cela. Alors il est revenu en trottinant, suivant le même parcours, mais cette fois-ci, les gens n'ont pas fait attention à lui. Il a dit Où sont les branches de palmier? Ne savez-vous pas qui je suis? » Mais les gens qui l'ont entendu lui jetèrent des pierres. L'annonce s'est mise alors à parcourir les rues de Jérusalem en disant « Où sont donc les chants de louange à mon égard? Vous ne vous souvenez plus de moi ?» Mais à l'intérieur de la ville, personne ne faisait attention à lui. Finalement, ils l'ont chassé hors de la ville. Le petit ânon s'en retourna alors chez lui, découragé et humilié. Quand sa mère le vit, elle lui dit « Tu es un petit ânon insensé. Ne sais-tu pas que sans Jésus, tu n'es rien ?» Et ça, c'est vrai aussi pour nous. Sans Jésus, sans son Saint-Esprit agissant en nous, nous ne sommes pas grand-chose. Nous ne pouvons pas arriver à grand-chose. Mais quand, avec humilité, nous recherchons la dépendance du Saint-Esprit qui habite en nous pour être un témoin du Christ authentique, alors ça change tout. Ainsi, le témoin du Christ est un témoin responsable parce qu'il n'attend pas que Dieu fasse tout, mais il est aussi dépendant parce que il ne tombe pas dans le piège de croire qu'il doit faire avec ses propres forces. C'est à une véritable collaboration, c'est à une belle harmonie que témoins et Saint-Esprit doivent arriver pour accomplir la volonté de Dieu. Après avoir dit cela, Jésus fut élevé pendant qu'ils regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Jésus a disparu. Les apôtres restent paralysés. Que se passe-t-il en eux ? Comprennent-ils qu'ils ne reverront pas de sitôt Jésus ? Cet état témoigne-t-il d'une sidération ? Témoigne-t-il d'un au revoir silencieux ? D'une profonde frustration ? Nous ne savons pas ce qui se passe dans leur cœur. Mais cela dure en tout cas suffisamment pour qu'il faille que deux anges interviennent et les remettent en route. Non sans ajouter quelque chose de non négligeable, Jésus viendra ou reviendra de la même manière qu'il est parti. Jusqu'au temps de la Pentecôte, les apôtres vont intégrer le manque et l'absence laissés par Jésus. Ils n'allaient pas revenir tout de suite. Ils étaient seuls cette fois, pour de bon. Et ils devaient bien prendre ce temps pour réaliser que désormais, c'était à eux de jouer. Ainsi, lorsque le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte, ils étaient prêts à partir, à accomplir leur mission de témoin, non pas seuls, mais avec le Saint-Esprit. Et sachant que Jésus était là quelque part aussi et qu'il les accompagnerait. Ce passage d'Acte 1 peut nous faire repenser à certaines paraboles de Jésus, comme celle des talents ou celle des 10 vierges. Dans celle des talents, le maître aussi s'en va et il donne des instructions à ses serviteurs en vue de son prochain retour. Qu'allons-nous faire des responsabilités qu'il nous a laissées, de la mission de témoin qu'il nous a donnée avec confiance que nous l'honorerons du mieux possible? Le maître revient. Jésus va revenir un jour. Quand, je ne sais pas. Je ne veux pas rentrer dans ce débat ce matin, mais d'une manière ou d'une autre, c'est certain, il va revenir. Il nous faudra alors lui rendre des comptes quand nous le verrons face à face. Le Saint-Esprit peut bien venir habiter en nous et nous animer d'un feu brûlant pour le Seigneur. Mais si nous laissons la flamme s'éteindre au fil du temps parce que nous pensons que nous avons du temps devant nous, alors nous raterons le coche. Attendre la venue de Dieu, c'est réaliser que notre temps est limité et qu'il y a urgence pour l'essentiel. C'est mettre de l'ordre dans notre vie, abandonner ce qui est inutile, ambigu ou équivoque et aimer comme le Seigneur le demande. Aimer nos contemporains en leur témoignant de ce que le Maître vient bientôt et qu'ils doivent aussi s'y préparer. Comme les vierges sages, nous sommes appelés à être veilleurs. œuvrant dans l'attente du retour du Seigneur, à tout moment. Ne pensons pas que telle ou telle chose peut être faite par les autres, parce que nous sommes bien trop occupés pour la faire. Ne pensons pas que nous pouvons la reporter à plus tard, parce que peut-être plus tard, il sera trop tard. L'apôtre Paul nous exhorte à racheter le temps, parce que celui-ci s'écoule inexorablement et nous ne pourrons pas revenir en arrière. Non, c'est notre responsabilité, déjà ici et maintenant, de gérer les talents que Dieu nous a confiés en tant que témoins du Christ. Alors, en route, partons sans plus attendre sur les chemins où Dieu nous envoie pour être ses témoins, veilleurs, responsables, dépendants et travailleurs, et ayant avec lui une relation authentique et vivante.